La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Olivier Bourque, bonjour.
Bonjour, bonjour, Yasmine.
Olivier, est-ce que tu nous parles de Montréal ou de Rouyn-Noranda? C'est la question que tout le monde se pose ce matin.
Ben, c'est devenu un vrai feuilleton, cette affaire-là. Hein? C'est le feuilleton de l'été. De Rouyn-Noranda,
oh,
ma chère.
Oh, quelle chance! Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout.
Je te raconte tout. Il y a eu 4 changements d'heure de mon vol, premièrement. Parce que on devait partir hier à 11h30. Premièrement, moi, je m'attendais à recevoir un texto et peut-être même un texto de Michael Rousseau me disant que mon vol avait été
en anglais, oui.
Mais non, en anglais. Mais non, finalement, je recevais différents textos, c'est parce qu'on changeait l'heure de mon vol. Alors, on devait partir à 11h30 hier, mais finalement, ça a été aux alentours de 13h. On est parti donc pour Rouyn-Noranda. 4 changements d'heure. Pourquoi? Parce que l'avion, pilote, le personnel en cabine, on a eu du retard sur un autre vol auparavant, donc Ottawa-Montréal. Et là, c'est ça qui se passe, Yasmine. Après ça, qu'est-ce que tu penses? Ça fait un effet domino sur toute la journée. Alors, tous les vols après ça sont ou annulés, ou carrément donc déplacés de quelques heures, 1 heure, 2 heures. Et tout ça, évidemment, donc c'est relié à un problème de personnel. Et probablement que je vais écrire là-dessus la semaine prochaine, mais j'ai parlé hier, il y a une semaine, avec des agents du service à clientèle. Souvent, ce sont de jeunes femmes, donc dans la vingtaine, trentaine. Et elles me disaient, à chaque jour, actuellement, à l'aéroport Montréal-Trudeau, c'est l'apocalypse.
Ah ouais.
c'est pas compliqué.
Je regarde les images, là, puis honnêtement, ça fait peur.
Ça fait peur, ça donne pas le goût de partir en vacances, assurément. Les vols sont annulés, les gens sont pas contents. Et là, après ça, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, combien vous êtes payé, donc au service à la clientèle? Alors, les personnes, les préposés qui sont en arrière des comptoirs, notamment donc chez Air Canada. Et on m'a dit qu'elle commençait à 16 $ de l'heure.
C'est pas très cher. C'est pas très... ça reste vraiment par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, par rapport au fait que les employeurs s'arrachent des employés. Je peux comprendre qu'il y ait un taux de roulement qui soit énorme chez Air Canada?
Ben oui, exactement, tu as tout compris. Alors, dans un contexte hautement stressant, le salaire minimum, je tiens à le dire, est à 14,25 $ actuellement. Donc, c'est 1,75 $ de plus que le salaire minimum. Et là, Air Canada affirme qu'elle a un sérieux problème de personnel. Tant toi puis moi, paye ton monde et ça va peut-être mieux rouler. Là.
Ouais.
Semble-t-il hier que le patron, M. Rainville, disait que les salaires des employés à l'aéroport de Montréal avaient grimpé entre 10 et 30 pour attirer le personnel. Mais à l'évidence, c'est peut-être pas encore assez. Là. Alors, donc il y a un problème, évidemment, donc de personnel. Et hier, je sais pas si tu as reçu, Yasmine, ta communication de Michael Rousseau, le grand patron d'Air Canada.
Je l'ai reçu, je plaide coupable.
En français ou en anglais?
Hey, j'ai reçu « The English version will follow ».
OK, donc en français.
Ben, c'est ça.
Dans les deux langues. Dans les deux langues. Et, même chose pour moi. Et là, imagine-toi, on s'excuse et on dit que tous les grands transporteurs sont touchés par la reprise qui est très, très difficile actuellement dans le secteur aérien. Et il dit... Pour atteindre le degré de stabilité opérationnelle nécessaire, nous devons à contre-cœur pratiquer des réductions substantielles. Alors donc, ça veut dire au mois de juillet et au mois d'août. Donc, dans les 2 prochains mois, c'est grosso modo 150 vols par jour qui seront
annulés. C'est énorme, 150 vols par jour.
Oui.
Et on ne sait pas encore c'est lesquels. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs voyageurs qui... C'est un peu la roulette russe. Là. Ça va-tu tomber sur moi? Ça va-tu pas tomber
exact.
Sur moi? Je pars-tu en vacances ou pas? C'est difficile déjà de pouvoir avoir Air Canada au téléphone. Est-ce qu'on tu sais si on va avoir la liste bientôt de ces vols annulés?
Oui, assurément, parce que là, on dit que ça touche le mois de juillet et le mois d'août. Alors, je ne sais pas ce sera quoi la tactique d'Air Canada. Est-ce qu'on va contacter directement les clients? Probablement. Mais imagine la logistique en arrière de tout ça. Et là, tu as raison. Là, on ne sait pas quels sont les vols ou quelles sont les liaisons qui seront touchées. On nous a dit hier, cela a dit que ça va toucher davantage Montréal et Toronto, donc qui sont les 2 plaques tournantes. Mais à Montréal, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire 30, 40, 50 vols qui vont être annulés par jour? d'Air Canada. C'est beaucoup, là, 50 vols par jour.
Et est-ce que c'est des vols domestiques? Est-ce que c'est des vols internationaux? Est-ce que c'est pour les États-Unis? Puis là, hier, la réflexion que je me faisais, il y a tellement de monde qui partent en croisière, qui font des événements, qui ont acheté leurs billets depuis tellement longtemps. Puis là, ça ne sait pas s'ils vont pouvoir, si la roulette va s'arrêter sur leur vol ou pas.
Ben oui, exactement. Ce qu'on semblait dire hier, Yasmine, c'est que ça va moins toucher les vols internationaux. Donc, par exemple, l'Europe. Ça toucherait davantage les vols domestiques, des liaisons régionales. Donc, le fameux 500 $ de M. Bonnardel, là, ça se peut que ce soit pas très utile, soit pas très utilisé durant l'été. Parce qu'il y a, de ce qu'on en comprend, il y aurait moins de liaisons régionales. Et la conséquence de tout ça, ben là, tu l'as dit, premièrement, du stress pour les voyageurs si tu pars au mois de juillet, au mois d'août. Mais la conséquence de tout ça, Yasmine, la mathématique est très simple. Là. C'est pas compliqué, là. T'as moins de vols, la demande reste robuste. Donc, les prix vont monter, naturellement.
Et ça va être encore le chaos pendant plusieurs semaines, voire des mois à l'aéroport.
Assurément. Puis on va abandonner, là, j'ai vu hier, on a abandonné Montréal-Pittsburgh. Alors, j'imagine que c'était pas très, très populaire. Mais assurément, pour le transport régional, le domestique, peut-être des liaisons américaines. Peut-être en terminant sur ce sujet-là, ce matin, j'ai fait une petite recherche quand même. Ça demeure, pour l'Europe, ça demeure quand même relativement bon. J'ai regardé à Montréal-Paris. Corsair, tu vois, 660 $ au mois de septembre. Alors, je sais pas si les gens ils peuvent déplacer un petit peu, là. Je sais pas si c'est possible, évidemment, avec les vacances. Mais peut-être de déplacer un peu, là, au mois de septembre, j'ai l'impression que les prix sont plus raisonnables, mais assurément qu'il y aura de la pression sur les prix pendant l'été.
C'est sûr. Et hier, on voulait parler de l'Ozo, cette entreprise centenaire qui vient de fermer ses portes et il y a plusieurs causes qui le justifient.
Oui, exactement. On va y aller brièvement parce que je crois que tu vas parler tout à l'heure avec les anciens propriétaires.
Oui.
Je m'abuse. Bon. Alors, bon, tu l'as dit, c'est un magasin dans le sens le plus noble. Des vieux magasins avec du service, tu entres. Je veux dire, c'est une institution, l'Ozo, là. C'est du matériel de photographie, de l'électronique, tout ça. Établi sur la Plaza Saint-Hubert depuis environ près de 100 ans. Ils avaient été achetés par Henry's, c'est une entreprise ontarienne, donc dans leur secteur, c'est un détaillant d'électronique. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on devait assurer la pérennité de l'Ozo, mais c'est pas ce qui est arrivé. Alors, rapidement, de ce qu'on en comprend, Henry's a coupé des employés ici. Le site Internet de l'Ozo avait été fermé, ça avait été redirigé vers le site anglais de Henry's.
Finalement, ils ont acheté une entreprise familiale pour la détruire.
Ben, c'est ça, ouais. Mais tu sais qu'on le dit souvent, lorsqu'on est acheté par des groupes, des grands groupes, il y a toujours un risque pour les entreprises, puis des entreprises familiales, de se faire fermer à un moment donné. Et là, je ne sais pas c'était quoi la stratégie de Henry's. Est-ce que c'était justement de fermer l'entreprise? Parce qu'ils sont exactement dans le même secteur, quoique c'est pas leur secteur. C'est le même secteur d'activité, mais c'est pas le même territoire. C'était davantage l'Ontario, Henry. Alors, c'est très, très décevant tout ce qui se passe. Puis peut-être, en terminant sur ce sujet-là, on a ciblé carrément les travaux sur la Plaza Saint-Hubert comme une des causes de la fermeture. On en parle peu, Yasmine, mais les grands travaux partout à Montréal, c'est vraiment dommageable pour certaines artères. La Plaza Saint-Hubert, là, on y va, c'est très, très beau, là. Mais est-ce que les clients, pendant les 2 ans, 3 ans que ça a duré, sont allés ailleurs?
Mais ça a fait beaucoup de mal à plusieurs magasins sur la Plaza Saint-Hubert, ces travaux qui se sont échelonnés sur plusieurs années.
Ben oui, puis Saint-Denis, Yasmine, franchement, là, je sais pas si c'est allé dernièrement, là, mais je veux dire, c'est pas stationnable.
Ah non, la dernière fois, je devais aller à un resto sur Saint-Denis, Olivier, puis j'ai fait le tour pour trouver du stationnement pendant 1 heure et quart.
Ben oui, exactement, parce que on sait que dans le plateau maintenant, on peut quasiment pas passer. Là, il y a juste des labyrinthes, grosso modo, là. Puis là, on va dire aller en métro, bien sûr, aller en métro. C'est bien d'aller en métro, mais parfois on part d'un endroit aux alentours de Montréal où on ne peut pas prendre le métro. En tout cas, c'est très, très compliqué. Et il y a eu des gros travaux aussi sur Saint-Denis. Et si tu te promènes sur Saint-Denis, Yasmine, tu vas voir, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés ou qui ont mis la clé sous le tapis lors des derniers mois. Alors, tout ça est quand même assez désolant là, pour le commerce de détail.
Ce qui est particulier aussi, ce qui retient notre attention, c'est on a vu un texte sur les primes qui explosent à Investissement Québec. Là, on parle souvent des primes des hauts dirigeants, mais là, on parle aussi de tous les employés.
Oui, exactement. Donc, c'est la plume de mon collègue Sylvain Larocque. Ils ne sont pas à plaindre, les gens qui sont à Investissement Québec. Mais tu sais que M. Fitzgibbon, c'est son vaisseau amiral.
Oui, son bras financier.
Son gros bras musclé. Musclé, en tout cas, parce que on mise beaucoup du côté d'Investissement Québec. On fait beaucoup d'embauches. Et donc, les bonis versés l'an passé à Investissement Québec, ça a bondi de 43%. Ils ont versé un montant de plus de 12 millions en primes de rendement. Ils ont 1097 employés maintenant. C'est sûr que c'est important, Investissement Québec, Yassine, parce qu'on va attirer notamment donc des capitaux étrangers. On est content lorsque, par exemple, un Moderna vient de s'installer à Montréal. Alors, ça prend évidemment donc des employés qui travaillent là-dessus, mais quand même, donc les primes qui ont augmenté. Écoute, la prime moyenne est établie à 11 000 $ par salarié. Donc ça pour l'année 2020-2021.
Et c'est pas comme si les salaires de base étaient à pleurer, là.
Non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis on dit qu'il y a eu un rehaussement pour certains employés professionnels de bonis. Ça a passé de 7 à 9%. Puis regarde ça. Les bonis pour d'autres types d'emplois, notamment donc des spécialistes en informatique, en investissement, en placement privé, les bonis ont passé de 12 à 20%. Alors, sur un an. Et l'argument est toujours le même. Alors, on dit qu'on veut attirer des employés, il faut mettre les efforts, les salaires, puis qu'il y a une guerre de talent, faut payer les employés. Évidemment, on peut pas attirer des, comme on dit, des mouches avec du vinaigre. C'est pas faux, mais je crois que le service public doit rester attrayant. Évidemment, on regarde ce qui se passe à Service Canada. Donc, la fonction publique est importante. Maintenant, tout est dans l'équilibre. Lorsqu'on est dans une période économique plus difficile, puis on parle de plus en plus de récession, ben, le gouvernement doit faire preuve également de frugalité.
On se pose la question quand on voit aussi des manifestants, des syndicats, des enseignants, des infirmières, ouais. Et par exemple des employés d'Investissement Québec qui voient des bonifications augmenter, des primes augmenter, des salaires moyens augmenter. Ben, ça doit nourrir. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Tu penses pas que ça donne du gaz, ça donne des arguments solides à ces syndicats qui réclament des ajustements plus grands?
Ah oui, absolument, absolument. C'est sûr et certain que si les employés dans le secteur de la santé, par exemple, dans d'autres secteurs qui sont, on s'entend, plus importants que d'attirer des investissements étrangers, c'est ça l'affaire, là. On pourrait dire les grandes missions de l'État, des professeurs, des infirmiers, des infirmières, c'est sûr et certain que ça amène des arguments là, pour qu'on augmente aussi leur salaire. Et après ça, il y a aussi, on pourrait dire, une espèce de cercle vicieux actuellement, étant donné que bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les salaires augmentent et ça alimente aussi l'inflation qu'on est en train de voir. Alors. Mais quand même, on continue de dire du côté d'Investissement Québec que la mission est importante puis qu'on doit aller chercher des capitaux étrangers. Alors, il y a quand même des bonus qui sont impressionnants sur un an.
Olivier Bourque, merci beaucoup. On se parle lundi.
Ça a été un plaisir. Bonnes vacances.
Merci.
Bon congé.